Chers frères et sœurs, nous en sommes au deuxième dimanche de ce temps de l'Avent et à la deuxième semaine de ce temps de l'Avent. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à la joie. La joie d'abord comme sentiment, mais davantage la joie comme attitude. La joie comme sentiment, c'est une joie qui est provoquée par des événements spontanés. On me donne un cadeau, alors cela provoque la joie en moi. On me félicite, cela provoque la joie en moi. Mais la joie comme attitude ne dépend pas des événements. Ça devient comme une manière d'être en tout moment, en toutes circonstances. On développe une joie qui devient une marque de reconnaissance, une marque de louange qui conduit à l'adoration. Pourquoi je suis dans la joie, même quand tout va mal? Parce que je sais en qui j'ai mis ma foi. Parce que je sais qui est mon Dieu. Et à cause de cela, je sais que quand il commence quelque chose, il va l'achever, comme le dit la deuxième lecture. Alors, les choses, même quand ça va mal, ça ne m'effraie pas. Je demeure dans la confiance et cette confiance développe en moi une attitude de louange, d'action de grâce et d'adoration et ça maintient la joie en moi. Ça, c'est la joie qu'on appelle l'attitude. C'est de cela dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui et dans les lectures d'aujourd'hui. Arriver à développer les attitudes de joie quand nous célébrons, quand nous prions et quand nous vivons notre foi et nous exprimons et témoignons de notre foi, quand nous donnons, quand nous faisons des gestes, des actions ou des œuvres de bienfaisance, le faire avec joie, comme attitude. Voilà pourquoi la première lecture commence par cela. Dieu lui-même nous invite à cette joie-là. Enlève ta robe de tristesse et revêt à la joie, mais la joie qui vient de Dieu. Dieu lui-même vient pour nous apporter cette joie-là. Mais la joie que Dieu nous apporte, c'est d'abord un message qui passe par une promesse. À cause d'une promesse, nous sommes invités à la joie. Quand une femme, une jeune femme attend famille, la première chose, il va dire à sa mère, « Maman, je suis enceinte. » Et la maman, à son tour, va dire à ses amis et à ses connaissances, « À bientôt, je vais être grand-maman. » L'enfant n'est pas encore né. Juste la nouvelle provoque la joie. Et la nouvelle devient une bonne nouvelle qu'elle répand autour d'elle. Dieu nous fait une promesse. Et il veut que cette promesse justement puisse provoquer la joie dans notre cœur. Voilà pourquoi nous sommes invités à cela. Mais pourquoi la joie? Premièrement, parce qu'il y a une promesse. Et quand Dieu fait une promesse, il respecte, il réalise toujours cette promesse. Deuxièmement, comme dit la première lecture, parce que la joie de Dieu, la joie qu'il nous apporte, c'est d'abord à travers des œuvres de miséricorde et de justice. Les œuvres de miséricorde et de justice. Cette année, à partir de mardi, le 8 décembre, le pape François a décrété une année jubilaire, une année de miséricorde. À travers cette année, nous voulons apprendre à découvrir la façon dont Dieu nous regarde et comment son cœur est rempli de miséricorde envers nous. Quel que soit notre passé, quel que soit ce que nous avons fait, Dieu nous regarde toujours comme ses enfants. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Ça, c'est notre Dieu. C'est de cette façon qu'il manifeste sa miséricorde. Quand un pécheur revient à lui, il ne regarde plus ses péchés, il lui donne sa grâce en surabondance. C'est de cette façon qu'il manifeste sa miséricorde. Quand on part en pleurant, on revient dans la joie parce que le Seigneur lui-même travaille avec nous. C'est de cette façon qu'il manifeste sa miséricorde. Mais une année de miséricorde, c'est aussi une année où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenons à promouvoir des actes, des œuvres de miséricorde entre nous. Mais aussi où nous apprenons à reconnaître les œuvres de miséricorde qui se vivent déjà dans nos vies de tous les jours. Par exemple, de plus en plus, vous allez entendre des parents, des couples, des personnes, des enfants viennent me dire facilement, les enfants vont me dire, voilà, moi j'ai eu des parents qui étaient vraiment difficiles, ils étaient toujours absents, ils nous ont jamais dit je t'aime, jamais, ils nous disaient jamais cela. Malgré cela, ces enfants vont prendre soin de leurs parents. Malgré cela, ces enfants vont continuer à aimer et à soutenir leurs parents en grandissant. À travers ce geste, c'est ça qu'on appelle l'attitude de miséricorde. Un cœur qui prend en compassion l'autre, parce que comme disait Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. La miséricorde, nous vivons ça au quotidien. Il y a plusieurs enfants qui vivent cette situation-là, pourtant ils continuent à aimer leurs parents par miséricorde. Parfois ils ne le savent pas. C'est pour cela que cette année nous devons apprendre à découvrir ces gestes que nous vivons de miséricorde les uns par rapport aux autres. Combien de parents sont venus me voir de couple pour dire, moi, avec ma femme, ça n'allait pas. On a vécu des moments de difficultés pendant des années. Pendant des années, ça n'allait vraiment pas. Pourtant, l'homme est resté. Pourtant, la femme est restée. Et tous ensemble, chacun a supporté l'autre, même quand ça n'allait pas. À travers ces gestes, c'est vraiment un cœur de miséricorde. Ce sont des attitudes de miséricorde. Parfois, on n'est pas conscient, mais la miséricorde se manifeste à travers ce mot-là. On sait supporter. On s'est supporté même quand ça n'allait pas. On a pu traverser les déserts et aujourd'hui, ça va quand même, ça va mieux. Des attitudes de miséricorde, on les vit au quotidien. Combien de parents ont été déçus par leurs enfants, mais à la fin, vous voyez, ils manifestent toujours en fait leur pardon et leur compréhension et leur compassion envers les enfants. Les mamans en particulier, ils voient grandir les enfants en qui on a investi, on les a envoyés aux études et à la fin ils reviennent sans diplôme, sans papier. Et même on apprend qu'ils ont cassé, comme on dit, cassé le bic, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'étudier. Quelle déception pour les parents. Pourtant, les parents vont se débattre, ils vont se démener pour trouver une autre issue à leur enfant. La miséricorde, l'attitude de miséricorde, on vit cela au quotidien. Mais c'est important que nous puissions prendre conscience de cela parce qu'il faut promouvoir cela pendant l'année de miséricorde. Et quand nous arrivons à promouvoir cela, au bout de compte, ça provoque la joie. Je lisais, l'abbé Serge m'avait envoyé une lettre que un monsieur français a écrit, un chrétien. Il a écrit aux terroristes qui avaient, au mois de novembre, l'acte terroriste qui a eu lieu à Paris. Alors, il avait perdu sa femme, un jeune monsieur. Alors, il écrit aux terroristes, il leur dit, au moment où je suis en train de vous écrire, je vais bientôt jouer avec mon enfant. Vous m'avez arraché la mère de mes enfants, mais je ne veux pas céder à la haine. Ça serait vous donner raison. Ça serait vous donner raison. Moi, le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu qui est amour. Chaque balle qui a percé le cœur de ma femme, c'est des blessures qui ressemblent aux blessures de Jésus. Et je ne veux vraiment pas vous haïr. Je ne veux pas non plus me mettre en colère envers vous, parce que ça serait vous donner raison. C'est vrai que j'ai beaucoup de peine de voir partir ma femme, mais ça sera de courte durée. Parce qu'avec mon enfant, avec mes enfants, nous allons nous battre pour ne plus avoir peur. Nous allons nous battre pour ne plus avoir la méfiance envers les étrangers. Nous allons nous battre pour... Vous vouliez semer la haine envers nous. Vous vouliez semer la méfiance, mais vous n'allez pas réussir. Moi, le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu amour. Je veux continuer à aimer. Si vous avez pensé que vous alliez me dérouter, vous avez échoué. Parce que moi, je veux continuer à aimer. Je veux continuer à aimer. Et j'ai rêvé, d'ailleurs, ma femme était dans le paradis. Quelle joie! Il le dit avec beaucoup de joie. J'ai dit, comment on peut être dans la joie alors qu'on vit des situations comme ça? J'ai beaucoup apprécié qu'il puisse mettre ça par écrit, parce que ça prend des témoignages de foi comme ça. Dans des situations difficiles, comment demeurer dans la joie? Comme je le disais, nous sommes souvent tentés à la joie spontanée, à la joie sentiment. Mais la parole de Dieu nous invite à la joie attitude. Et c'est de ça dont il est question. Même quand on a tué sa femme dans un acte terroriste, il continue à dire, la vie doit continuer. Et je continue à croire en Dieu. Et je continue à aimer. Et je continue à vivre dans la confiance envers les autres. Même quand on a tué sa femme, ça prend un témoignage de foi, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi vous voyez Paul, dans la deuxième lecture, quand il écrit la lettre là, il est en prison. Paul est en prison pendant qu'il écrit la lettre. Mais remarquez comment il écrit sa lettre. Il commence en disant, chaque fois que je prie pour vous, je le fais dans la joie. Je le fais avec joie. Lui qui est en prison. On a toujours tendance à penser qu'il faut être libre, qu'il faut être en paix, il faut recevoir de l'argent, il faut gagner une loterie pour être dans la joie. Non, même en prison, Paul est dans la joie. Même en prison. Donc, la joie que Dieu nous propose, ce n'est pas une joie qui vient éliminer la souffrance, ça ne vient pas éliminer la persécution, ça ne vient pas éliminer le terrorisme, mais ça vient affermir le cœur par rapport au terrorisme, par rapport à la persécution, par rapport à la souffrance. Comment maintenir sa joie malgré cela, cette joie-là? C'est ça que la parole de Dieu vient nous proposer. Alors, je termine avec cette histoire que j'ai racontée hier. L'histoire de cet homme qui est riche, là, qui aimait beaucoup, qui était maniaque de la chasse. Alors il avait un serviteur qui priait beaucoup. Chaque fois il priait. À la fin de la journée, il était toujours dans la louange. Et le patron l'observait toujours. Alors même les jours où il y avait beaucoup de travail à faire, après une longue corvée, cet homme-là se mettait toujours à prier dans la louange, il glorifiait Dieu. Et son patron s'étonnait, il dit, mais comment tu fais après une journée comme ça, à prier, à louer Dieu? Il dit, patron, c'est parce que tout ce que Dieu fait est bon et juste. Et il répétait cela, chaque jour, il répétait cela. Alors, le patron l'avait pris vraiment, presque en amitié, avec beaucoup d'affection. Il lui a dit, tu vas m'accompagner, je vais aller faire la chasse. Il est allé dans un pays africain pour aller faire la chasse. Et là, on leur a désigné l'endroit où il fallait faire la chasse. Il est allé avec son serviteur, l'enfant. Est-ce qu'il a mangé ce matin? Mais restez dans la joie malgré ça. Alors voilà, il s'en va à la chasse avec son serviteur. Et qu'est-ce qui arrive? Quand ils arrivent là-bas, dans la portion de forêt qu'on leur a donnée, il commence à aller. Lui avait un fusil, son serviteur ne l'avait pas, il avait juste une lance. Et voilà que pendant qu'il parcourait un sentier, un léopard a sauté sur lui et il cherchait à l'égorger pour le tuer. Il a commencé à se débattre tant bien que mal. Et en se débattant, le léopard a réussi à lui arracher le doigt du milieu de la main droite. Alors, le sang commençait à couler. Le sang coulait. Et il a arrêté la chasse. C'était fini pour lui. Il ne pouvait plus continuer à aller chasser. Voilà pourquoi, finalement, il a décidé de retourner avec son serviteur. Il retourne, ils prennent l'avion, ils reviennent chez lui. Alors, il était tellement en colère d'avoir manqué sa chasse. Il en parle à son serviteur. Son serviteur lui dit, patron, tout ce que Dieu fait est juste et bon. Il le regarde avec toute la colère qui était dans son cœur et dit, tu vas voir avec ton Dieu là. Il ne voulait plus entendre parler de son Dieu là. Alors, quelques temps après, le serviteur a commis une gaffe et le patron en a profité et l'a foutu en prison. Pendant ce temps, il s'est fait soigner. Aussitôt qu'il était guéri, il a pris encore la route pour aller à la chasse en Papouasie. Et là, il s'en va là, un guide, il dit, cette fois, je vais aller avec un guide qui va m'accompagner dans la chasse, dans la forêt. Alors, il est allé avec un autochtone, ils sont entrés dans la forêt. Pendant qu'ils étaient dans la forêt, ils ont été surpris par un groupe d'autochtones qui sont venus les arrêter. ils les ont capturés. Et là, ils les amènent au village. Alors il dit, ben voilà, comme c'est un étranger, on va s'en servir pour les sacrifices. On va les sacrifier à notre Dieu. Ils sont allés chercher du bois, ils ont fait un bûcher, et ils l'ont préparé, ils l'ont ligoté, et ils l'ont étendu sur le bûcher. Et voilà que ils sont allés chercher les grands chefs. Les grands chefs arrivent, ils font le tour du bûcher, ils observent l'homme, et après quelques temps, ils disent non, déliez-le. Ouais, déliez-le. Laissez-le partir. Il dit, mais comment? Et les sacrifices? Il dit, mais non, vous connaissez le principe. On ne peut pas sacrifier à notre Dieu quelqu'un qui n'est pas parfait. Remarquez, il lui manque un doigt. Il n'est pas parfait. Il faut le lier, le laisser. Ah, le doigt l'a sauvé. Il venait d'être sauvé à cause de ce doigt que le léopard avait arraché. Et quand il retourne chez lui, la première chose qu'il a faite, il est allé chercher son serviteur, il l'a fait sortir de la prison. Il dit, je te demande pardon, ton Dieu, il est vraiment bon, il est vraiment juste. Je m'étais mis en colère à cause de cette attaque du léopard, mais regarde, le léopard m'a pris juste un doigt, mais à cause de ce doigt, ma vie a été sauvée. Ma vie a été sauvée. Il lui raconte l'histoire. Et son serviteur lui dit, patron, je t'avais dit, Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon et juste. Alors là, il lui dit, mais si ton Dieu est vraiment bon et juste dans tout ce qu'il fait, mais pourquoi il m'a laissé te mettre en prison? Là, le serviteur a gardé un moment de silence. Et puis après, il lui répond, il dit, mais patron, si j'étais allé avec toi, c'est moi qui serais sacrifié. Tout ce que Dieu fait est bon et juste. Il fallait que je sois en prison pour que j'échappe à ce voyage et que tu ailles seul et que tu ailles avec un autochtone parce qu'ils ne pouvaient pas sacrifier leur propre frère. Mais si tu étais allé avec moi comme on est allé en Afrique, c'est moi qui allais être sacrifié parce que je suis un étranger pour eux et que moi je suis parfait. Tout ce que Dieu fait est bon. Même quand on ne comprend pas quand cela nous arrive. Il y a des situations qui vont nous arriver. Nous n'allons pas comprendre à ce moment-là. Nous nous disons tout le temps, mais pourquoi je prie Dieu? Pourquoi on a jeûné? On a fait des 9 heures, on a fait, je vais toujours à l'église. Pourquoi cela m'arrive? Parce qu'on regarde le présent. Mais Dieu, regardez, il regarde, il a une longueur d'avance. Il regarde plus loin. Il regarde plus loin. Quand l'homme gémissait pendant ce temps-là, il ne savait pas qu'il y aurait un autre voyage et que dans cet autre voyage, c'est sa vie qui serait mise en jeu. Mais Dieu voyait ça parce qu'il regarde plus loin et il a protégé. Dieu peut permettre que quelque chose nous arrive, même de malheureux, quand il s'agit de sauver notre vie. C'est pour cela que nous devons développer l'attitude de reconnaissance, l'attitude de joie, l'attitude d'adoration et de louange. Parce que quand Dieu commence quelque chose, quand il est avec nous, il va jusqu'au bout parce qu'il est fidèle. Voilà ce à quoi nous invite ce deuxième dimanche de l'Avent. La joie à cause de la miséricorde de Dieu, la joie à cause de la bonté de Dieu, la joie à cause de la justice de Dieu. Amen.